Bonjour et bienvenue au Catalyseur de chansons. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Estelle Drouin, qui est la directrice du Centre de services de justice réparatrice, qu'on va nommer souvent le CSJR. Elle est située à Montréal. Bonjour, Estelle.
Bonjour Marie-Andrée, très contente d'être avec toi aujourd'hui.
Pour commencer, j'aimerais que tu me prennes une petite minute pour m'expliquer c'est quoi la justice réparatrice. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît et c'est quand même quelque chose d'assez particulier que je suis vraiment contente de pouvoir faire connaître aujourd'hui.
Oui, avec plaisir. Alors, la justice réparatrice, je te dirais que c'est à la fois une vision de société, des principes et des pratiques, mais qui sont très différentes. Alors, c'est pour ça que c'est difficile parfois de le définir. Moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, derrière la vision de la justice réparatrice, il y a une dimension de communauté. C'est qu'on fait tous partie d'une communauté, d'une société ensemble. On est tous interreliés. Et ce qui arrive à l'un d'entre nous ou à plusieurs d'entre nous, mais ça a un impact sur nous, en fait. Je prends souvent l'image d'une toile d'araignée. Imaginez une toile d'araignée, puis quand il y a un trou dans la toile d'araignée à cause d'un petit incident, ben c'est toute la toile qui est fragilisée, hein? Donc on est tous quelque part responsables de qu'est-ce qu'on va faire avec ça et comment on va réparer ce lien de confiance qui a été brisé dans notre société. Alors, c'est vraiment un peu la vision qu'il y a derrière et donc les principes, c'est de se dire, ben vraiment, si on prend pas le temps de s'arrêter et de réparer les liens qui ont été brisés de confiance en nous-mêmes, avec les autres, dans la société, ben on va pas pouvoir vivre ensemble de manière harmonieuse ou de manière juste, hein. Donc, on va regarder ensemble comment on répare. Par exemple, un abus de pouvoir. Il y a eu un abus de pouvoir. Il y a eu deux personnes qui se sont blessées. Comment l'une d'entre elles va être dans une dimension de responsabilisation, d'humilité, de reconnaître ce qu'elle a fait? Et de l'autre côté, la personne qui a été blessée de reprise de pouvoir, hein, de se dire, ben, OK, je dépasse ça, je vais faire face à la personne ou à des personnes qui ressemblent à cette personne, pour reprendre du pouvoir et me resituer à ma juste place dans la société. Donc, il y a une dimension à la fois de responsabilisation et de reprise de pouvoir. Et dans les pratiques, ben, c'est créer des espaces de confiance, des espaces où les gens vont pouvoir s'écouter. L'écoute est très importante et ils vont pouvoir s'écouter et dialoguer et se dire, mais comment j'ai vécu les choses? Quelles ont été les conséquences de ce que j'ai vécu, l'impact de ce que j'ai vécu dans ma vie, dans la vie de mon entourage, dans la vie de la société? Et comment je me mets en chemin pour qu'il y ait réparation, en fait? Donc, c'est très variable. Alors, parfois, ça va être des rencontres directement entre une personne qui a pu être victime d'une injustice, d'une violence, d'un crime. Et son agresseur, entre guillemets, la personne qui l'a blessé directement. Ou parfois, comme c'est le cas au CSJR où je travaille, on permet à des rencontres entre des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont été blessées sur des crimes ou qui ont subi et commis des crimes semblables ou de la violence semblable. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir des personnes qui ont subi de l'inceste avec des personnes qui ont commis de l'inceste, mais ils sont pas dans la même famille. Mais c'est des personnes qui sont volontaires pour vivre cette démarche. Parce que ça, c'est vraiment une dimension importante de la justice réparatrice. C'est cette notion de volontariat. Les personnes, elles sont volontaires. C'est pas quelque chose qui leur est imposé. C'est quelque chose où elles sentent qu'elles ont à gagner à faire cette démarche. Et c'est une démarche qui est confidentielle, c'est une démarche qui permet, par exemple, quand c'est des... Ça peut être en milieu carcéral ou ça peut être en dehors du milieu carcéral. Et quand c'est en milieu carcéral, ben, les personnes, les détenues, les personnes incarcérées ne vont pas avoir une récompense à faire ça. Elles vont pas sortir plus tôt. C'est vraiment une démarche qu'elles font pour elles-mêmes. Elles vont pas avoir de bonus pour sortir plus tôt à cause de cette démarche. Donc, vous voyez, c'est vraiment une démarche où la motivation est très importante pour qu'il y ait vraiment une réparation.
Moi, je me souviens quand j'ai entendu parler de la justice réparatrice pour la première fois, j'étais en train de faire mes cours en criminologie à l'université, puis ça m'avait profondément touchée parce que souvent, quand on parle de criminalité ou de victimes, on parle beaucoup plus de punition, de sentence, de justice. En fait, beaucoup de ce niveau-là, on parle pas beaucoup de comment on répare, ce qui s'est passé, comment on peut c'est le terme ressortir grandi, mais je pense que c'est peut-être pas adapté de le nommer de cette façon-là, mais dans certains cas même, ça peut avoir cet effet-là. Mais il y avait quelque chose de très touchant dans le fait que autant la victime que la personne qui a commis pouvaient se rejoindre un peu dans la souffrance aussi au travers de ça, puis vivre des moments où est-ce qu'il y a quelque chose qui se répare vraiment.
Tout à fait. Tu as bien raison. Puis le danger parfois dans nos sociétés, c'est de tomber dans le côté binaire, hein, la dualité. C'est eux et nous. On n'est pas du même bord, mais en même temps, on est tous humains. On fait tous partie d'une même collectivité et on souffre tous. Et c'est sûr qu'il y a des gestes qui sont commis, mais c'est comment, à travers, comme tu le dis très bien, notre souffrance, se retrouver comme humain. Alors c'est sûr que dans nos rencontres au départ, c'est important qu'il y en ait qui soient reconnus comme ayant été victimes, puis d'autres qui reconnaissent qu'ils ont posé des gestes. Donc on part d'un point de départ, hein. Souvent on dit on retourne sur le lieu du crime ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il y en a eu un qui a agressé à ce moment-là, puis une qui a été ou un qui a été victime. Mais à partir du moment où on avance dans les rencontres, parce qu'on parle vraiment d'une démarche, d'un processus, et c'est plusieurs rencontres, hein, c'est pas en une seule fois que ça se passe, mais au fur et à mesure qu'on se dit, qu'on se partage les récits de vie et qu'on se retrouve à égalité de nouveau dans une rencontre réelle entre humains, ben il y a du lien qui se retisse, du lien qui se retisse entre nous, mais aussi en nous, en termes de confiance en soi-même.
Je pense que d'avoir la difficulté à faire une entrevue courte avec toi, je trouve ça super intéressant comme sujet. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la justice réparatrice.
Alors, qu'est-ce qui m'a amené? C'est sûr que les notions de justice m'ont toujours intéressée. Moi, je viens de la France, hein, et j'ai fait des études de droit, parce que la justice était quelque chose d'important pour moi, parce que je voyais vraiment le lien entre justice et paix. La dimension de si chacun est à sa juste place, ça va être harmonieux. Donc, comment faire en sorte que chacun soit à sa juste place? Et donc, j'ai fait des études de droit, je me suis spécialisée dans les droits de la personne. Et j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de torture, de mauvais traitements pendant plusieurs années à l'international. Et quand je suis arrivée en 2005 au Québec, je connaissais des personnes qui se trouvaient être impliquées dans le centre de services de justice réparatrice. Je connaissais la fondatrice, je connaissais le président de l'époque. Et ils m'ont fait découvrir cette notion qui était complètement inexistante en France. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'est le genre de justice tellement humaine, tellement visionnaire, tellement comment j'allais dire, comment la nommer, mais en fait je me suis rendu compte que là on travaillait vraiment pour du long terme. Parce que mon expérience d'avant où je travaillais dans les droits de la personne, je me rendais compte, ok, on essayait de recréer une certaine justice, de faire que les personnes qui avaient été victimes voient leurs droits reconnus, retrouvent leur place. Mais souvent, on restait dans une dimension binaire, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, aux Nations Unies, on allait les défendre, mais les gouvernements dictatoriaux, à ce moment-là, ben, voulaient après se venger s'ils avaient perdu. Donc, on restait toujours dans une dimension de gagnant-perdant. Et là, en fait, tout d'un coup, avec la justice réparatrice, je me suis dit, waouh, là, tout le monde y gagne. Donc, on arrive sur quelque chose de long terme, parce que quand tout le monde y gagne, il n'y a pas un qui veut récupérer ou retrouver son pouvoir, en fait. Et là, on retrouve chacun sa juste place dans la société, et puis on a le goût d'y rester. Et ça se fait dans une dimension qui peut être un peu confrontante. On va pas se le cacher, c'est confrontant au départ. Et en même temps, c'est tellement bienveillant. Parce que à partir du moment où on met de l'écoute bienveillante, où on a, nous, il y a toujours des animateurs hein, dans le processus aussi, des citoyens qui participent. Je l'ai pas nommé au début, mais la dimension citoyenne de se rappeler que chaque relation blessée ou quand il y a de la violence, quand il y a du crime, ça nous concerne tous, hein. Donc les citoyens font partie de la démarche. Et quand on crée ce coussin où on se rappelle qu'on est tous reliés et qu'on est tous ensemble, ben il y a quelque chose qui est bienveillant parce que c'est pas moi seule contre le système, c'est pas moi seule contre l'autre. Non, on est ensemble puis on va essayer de regarder ensemble ben, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour trouver un chemin de réparation, mais où tout le monde est gagnant. Et c'est ça, moi, qui m'a allumée. C'est ça qui m'a allumée. Puis je te dirais, les témoignages reçus, vraiment, c'est, j'en revenais pas d'entendre des témoignages. Je me disais, waouh, mais quel courage ces personnes ont eu d'oser aller à la rencontre de celui qui leur faisait peur. D'oser affronter ce qui était le plus terrifiant en eux, le plus honteux parfois. En tout cas, pour moi, c'était tellement inspirant de voir des personnes retrouver leur pouvoir, rentrer sur un chemin de résilience, mais ça supposait d'affronter leur peur et traverser leur peur. Et qu'il y ait une démarche qui les accompagne dans ça, ah ben pour moi, c'était tellement, tellement innovateur et tellement. Ça goûtait bon, ça goûtait bon. Alors, je me suis dit, j'ai le goût de m'y investir un peu plus.
J'étais avec le CSJR depuis 2010, ça va faire 14 ans, ça passe vite.
Oui, tellement.
J'aimerais que tu prennes un petit moment pour m'expliquer un petit peu plus vraiment les services du CSJR.
Alors, au CSJR, on a plusieurs, en fait, on a trois volets à notre mission. Le premier volet, c'est des rencontres de justice réparatrice directement. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ont été victimes de violences, d'injustices, de crimes, qui rencontrent des personnes qui ont commis la même chose qu'elles ont subie. Donc, ça peut être sur des questions d'agression physique, d'agression sexuelle, de meurtre, d'accident de la route avec faculté affaiblie, de fraude. Donc, vraiment assez large. Donc, on a des rencontres en groupe ou des rencontres en face à face, où je disais, il y a des personnes ayant été victimes, personnes incarcérées ou ayant été incarcérées, parce que du côté des personnes victimes, on ne demande pas forcément qu'elles soient passées par le système judiciaire comme tel, mais du côté des personnes auteurs, en tout cas des personnes qui ont commis des crimes, souvent c'est des personnes qui ont reçu une sentence. On a des citoyens, puis on a nos animateurs. Donc, c'est soit des petits groupes, soit des grands groupes. Ça, c'est notre service principal depuis l'origine, disons. L'autre service qu'on a développé depuis 2016, ce sont des ateliers de guérison des mémoires. Ça, c'est un service qu'on est allé chercher en Afrique du Sud. Après l'apartheid, ils ont mis en place, il y a eu la commission Vérité et Réconciliation pour recréer du lien entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. Et ils se sont rendus compte que la commission Vérité et Réconciliation ne suffisait pas et qu'il y avait besoin vraiment de continuer de travailler sur cette mémoire collective où vraiment c'est toute la population qui s'était blessée, où il y avait énormément de préjugés et beaucoup de polarisation. Donc ces ateliers de guérison des mémoires, c'est des fins de semaine pour 25 personnes d'origines très variées qui vont aller relire leur histoire de manière réparatrice, mais en groupe. Donc se rappeler qu'on fait partie, encore une fois, d'une même communauté, mais c'est plus d'aller regarder sa propre histoire et de la partager ensemble, mais d'entendre l'histoire de l'autre. Tout d'un coup, il y a des préjugés qui tombent, il y a des choses, d'autres types de liens qui se crée. Donc, dans ces ateliers guérison des mémoires, on a des personnes qui sont issues des communautés autochtones, on a des personnes immigrantes, on a des personnes québécoises, donc des personnes d'origine très variée, de toute génération, de tout profil. Et là, c'est pour, je dirais, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on a tous et toutes des histoires blessées, qu'on a le goût de, et on a le goût d'être entendus. Hein? Le fondateur Michael Lapsley de l'Institut Guérison des Mémoires en Afrique du Sud dit toujours, on a toutes et tous une histoire qui a le goût où on a le goût d'être écouté dans notre histoire de vie. Donc, c'est des espaces pour ça, pour vivre ensemble cette démarche-là. Et notre troisième volet de justice réparatrice, c'est le volet un peu plus plaidoyer. C'est quelle vision de société on a le goût de faire connaître et de développer et de faire rayonner, en fait. Donc, il y a une dimension plus de faire connaître la justice réparatrice comme aussi vision de société, comme pratique. Donc, on va beaucoup dans des collèges, dans des universités, dans le grand public. On organise des activités pour des semaines nationales de justice réparatrice, pour des personnes victimes, pour les journées de la paix, pour la journée vérité-réconciliation. Donc, de pouvoir rejoindre un plus large public, mais à partir beaucoup des témoignages de personnes qui vivent une démarche. Parce qu'on s'est rendu compte que le témoignage d'une personne a un impact sur l'autre et met en mouvement l'autre. Donc en fait, on a beau faire une petite démarche pour soi, mais c'est jamais juste pour soi. Parce que la démarche qu'on fait a un effet boule de neige. Et c'est ça qu'on veut enclencher comme un peu contaminant pour la société. On a des virus qui nous contaminent, mais il y a des virus positifs qui peuvent aussi nous contaminer grâce à des témoignages de personnes résilientes qui nous disent comment elles ont repris pouvoir sur leur vie et que ça les réengage socialement, citoyennement, dans la communauté.
On pourrait penser que la justice réparatrice, ça s'adresse vraiment à une clientèle très, très ciblée ou précise. Puis je trouve ça bien que tu rappelles à quel point ça touche tout le monde. Puis j'aimerais même que tu m'en dises un peu plus sur la place, justement, que l'ensemble de la communauté peut avoir dans ces espaces-là que vous créez.
Oui, pour nous, c'est bien important de rappeler que c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Non seulement parce qu'on a tous été blessés, puis on a tous commis des gestes, quelque part, à des niveaux différents. On s'en rend pas compte, mais d'avoir cette attitude de vie déjà dans notre quotidien, hein, il y a des principes, Howard Zinn, le grand-père de la justice réparatrice aux États-Unis, a mis en place 10 principes qu'on peut appliquer dans son quotidien, qu'on peut trouver sur Internet aussi. De juste dans son quotidien, de prendre le temps d'écouter, de prendre le temps de demander pardon ou de reconnaître quand on a dit quelque chose qui a pu blesser l'autre. Donc de vraiment être conscient que juste dans notre attitude au quotidien avec nos proches, on peut être un acteur ou une actrice de justice réparatrice et que ça peut avoir un impact important déjà autour de nous. Donc ça, c'est un premier élément. Après, on peut aussi devenir membre de la communauté dans les rencontres. Donc, se situer comme citoyen, ok, d'être là dans ces rencontres-là pour écouter l'histoire des autres et de pouvoir dire, ben oui, comme société, on n'a peut-être pas été là pour vous. On n'a peut-être pas été là pour vous. Parfois, on a, par exemple, des groupes. En ce moment, on en a un sur la violence conjugale. Ben, la personne victime dit, mais il y avait des gens qui l'ont vu, mais ils sont pas venus me voir, ils sont pas venus me soutenir dans ce que je vivais, j'avais besoin d'aide et personne ne le voyait. Donc, d'avoir un ou une citoyenne dans le groupe qui dit, je reconnais que comme société et moi comme citoyen, parfois je ne vois pas ou parfois je reste dans mon cocon puis j'ose pas prendre position. Donc, de pouvoir me situer comme citoyenne, c'est aussi notre démarche. Après, ben, les ateliers guérison des mémoires, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, prendre le temps d'aller regarder nos blessures qui parfois ont un impact, hein, sur les autres. Donc, de prendre le temps d'aller se réparer. On dit toujours, ce que j'ai subi, c'est pas ma faute. Hein, ce que j'ai subi, c'est il y a un autre qui est responsable de ça. Mais ce que je fais de ce que l'on m'a fait, là, je suis responsable. Qu'est-ce que je fais des blessures que j'ai subies? Donc, il y a quelque chose d'une responsabilisation à aller prendre soin de ses propres blessures. Donc, ça, c'est une autre démarche aussi. Et puis après, ben, ça peut être aussi de soutenir un mouvement, de pouvoir y contribuer financièrement, bénévolement, de pouvoir offrir ses talents. Donc, il y a plein, plein de manières. Toi, Marie-André, avec ton entrevue, ben, c'est une manière de contribuer à faire connaître cette démarche-là de justice réparatrice, chacun à son niveau, de pouvoir, avec ses talents, de pouvoir se dire, ben oui, il y a de l'espérance. C'est pas juste une question des autres, hein. Ça nous concerne tous et ça me concerne aussi.
Oui, puis j'ai eu l'opportunité d'assister à une rencontre détenue victime qui avait lieu vraiment dans un centre de détention. Puis les crimes, c'est des crimes apparentés, c'était pas les deux la même chose, mais c'était des situations quand même assez difficiles. Il y avait eu de la violence conjugale avec à certains moments à voix de fermée, là, tu sais, des choses qui avaient pu être difficiles. Et ça m'avait profondément touchée. De pouvoir être là et de pouvoir écouter leur histoire et de voir leur résilience, leur force aussi au travers de ça. Je sais que celle qui était victime, qui était là, c'était beaucoup pour, elle voulait pas que ça se reproduise à d'autres, fait qu'elle voulait aussi, de par son partage, sensibiliser. Fait qu'il y avait vraiment un peu de ça comme pour donner du sens aussi à ce qu'elle avait vécu. Puis du côté, de celui qui avait commis, il était en couple à ce moment-là avec la même personne, mais qu'il avait dénoncé puis qu'il avait fait en sorte qu'il était en détention. Et son intention, c'était de mieux comprendre ce qu'il avait pu lui faire subir pour ne pas le reproduire. Fait que les deux se rejoignaient vraiment à ce niveau-là, puis ça a été émotif à plusieurs reprises. Puis c'est vraiment, c'est le fait d'avoir une troisième personne qui était là aussi pour les écouter. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe dans ces moments-là.
Oui, tout à fait. Oui, puis moi j'ai souvenir que les personnes avaient beaucoup apprécié la présence hein, dans cette rencontre-là, d'avoir quelqu'un qui est là un petit peu à l'écart, mais ça sort du binaire dont je parle encore une fois, hein, c'est que tout d'un coup il y a quelqu'un, puis le fait que tu étais là, peut-être ça pouvait représenter leurs enfants aussi. La nouvelle génération qui arrivait, le fait de pas vouloir reproduire pour l'avenir. Donc, il y avait quelque chose aussi de très symbolique pour eux, que ta présence. Et oui, il y avait quelque chose où ça les dépassait. Il y avait quelque chose qui dépasse. Hein. C'est au-delà d'eux. Il y a quelque chose au-delà d'eux. Et ça permet de déposer entre d'autres mains. Et l'expérience, moi, j'ai commencé comme toi, j'étais membre de la communauté avant d'être directrice. Et ce qui m'a touchée, c'est que tout d'un coup, après, moi, j'en sortais aussi transformée. Il y avait comme quelque chose où je me sentais beaucoup plus à l'écoute des personnes autour de moi, observatrice. Si je voyais comme le moindre signal d'aide d'une personne. Sans tomber dans la sauveuse, mais de me sentir présente, de pas me, d'être moins indifférente. Donc, il y avait quelque chose d'un engagement citoyen qui était plus fort en moi aussi, sur mes propres attitudes aussi.
Ouais, puis je trouve ça bien qu'on le nomme parce que des fois on peut se sentir mal à l'aise un peu là d'entrer dans cette intimité-là, de des choses que dans le quotidien on parle pas de ça. On n'en aborde pas ou souvent on veut pas. Je sais que des fois ceux qui l'ont vécu veulent pas mettre ce poids-là non plus sur l'entourage forcément. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de plus social qui se reconstruit aussi au travers de ça.
Tout à fait, et ça libère la parole. C'est ça qui est intéressant. Moi, je me souviens de beaucoup de participants qui me disaient, ben le fait que j'en parle à l'extérieur de moi, dans mon entourage, de mon expérience, sans dévoiler les choses. Encore une fois, c'est confidentiel les histoires, mais de leur expérience, de qu'est-ce qu'ils ont vécu à titre personnel. Juste ça. Ça libère la parole. Tout d'un coup, il y a plein de gens qui m'ont dit que ben, ils ont été victimes dans mon entourage que je ne savais même pas. Et ces personnes-là gardaient des choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Et le fait que j'en parle, ben, de ce coup-là, ça libère. Il y a quelque chose d'une libération. Et ça a renoué des amitiés à un autre niveau de profondeur, en fait. Parce qu'il y avait quelque chose d'une intimité qui se vivait là dans ce partage. En confiance de quelque chose qui est profondément intime, en effet. Et tu parlais d'émotion, c'est vrai. Et je pense que c'est le chemin libérateur aussi que la justice réparatrice propose, c'est d'avoir un espace où ces émotions-là qui sont enfouies puissent être déposées à l'extérieur, puissent être libérées, puissent être accueillies. Que ce soit la peur, la tristesse, la colère, la honte, toutes ces émotions-là, parfois nous grugent à l'intérieur, puis elles nous contaminent, hein. Le fondateur de Guérison des Mémoires parle d'un poison comme quelque chose à l'intérieur, que si on ne prend pas garde de le cracher, de le sortir en dehors de soi, peut nous contaminer de l'intérieur. Donc, comment trouver des espaces où on va sortir ce qui nous contamine de l'intérieur. Et la dimension émotionnelle est très importante, oui.
Toujours dans l'idée de faire connaître un peu la justice réparatrice, là, qui est un point important là, dans ce que vous faites. Je pense que vous avez eu l'occasion aussi de collaborer sur un documentaire avec Tout.tv. Je sais pas si tu pourrais nous en parler peut-être un petit peu.
Avec la série Unité 9, tu veux
Oui.
parler? Oui, tout à fait. Mais la scénariste Danielle Trottier est une femme assez extraordinaire parce qu'elle écoute, elle est vraiment à l'écoute des enjeux de société et elle fait vraiment des recherches très approfondies avant de faire ses documentaires. Et donc, elle avait découvert la justice réparatrice en montant son dossier sur les personnes incarcérées. Elle a vraiment eu un coup de cœur par rapport à cette démarche-là, qui correspondait aussi à ses valeurs et à sa manière de voir, hein, le monde. Donc, elle a voulu mettre de l'avant aussi, un peu comme tu le fais avec l'entrevue, mais elle a voulu mettre de l'avant la justice réparatrice. Donc, il y a une heure, en effet, de documentaire dans lequel on peut voir aussi d'anciens participants qui témoignent de leur démarche. Des personnes ayant été victimes, personnes incarcérées, qui encouragent aussi de pouvoir dire en quoi c'était important pour eux et qu'est-ce que ça a eu comme impact dans leur vie, en fait. C'est disponible sur notre site cgr.org. Ouais.
Merci beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais que tu mentionnes comment est-ce qu'ils peuvent contribuer. Je sais qu'on en a parlé un petit peu là, au travers de la rencontre, mais juste un petit peu plus précisément là, les chemins pour vous contacter, les choses qui se feraient.
Oui, alors ben, j'invite les personnes à peut-être juste aller visiter notre site csjr.org. Vous y verrez des manières de contribuer, alors à la fois comme bénévole, comme participant, comme ben, partenaire financier éventuellement. Il y a aussi notre page Facebook, en devenant membre. Vous pouvez devenir membre aussi de l'organisme. C'est aussi une manière de dire, ben, c'est quelque chose auquel vous croyez. Nous, c'est pour nos bailleurs de fonds, c'est toujours aussi intéressant de montrer que ça rejoint des citoyens et citoyennes à travers le Québec, vu que notre organisme est vraiment provincial. Donc, vous êtes les bienvenus. Puis, si vous êtes en dehors du Québec, il y a peut-être d'autres manières où on peut vous mettre en lien avec des partenaires à l'extérieur, ou en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes les bienvenus.
Donc, merci à tous d'avoir participé à ce bel échange. J'espère que vous en avez appris plus sur la justice réparatrice et que ça vous a donné le goût de vous impliquer ou d'en connaître plus sur le sujet et d'en parler avec vos proches. Je vais vous dire à la prochaine pour une autre entrevue avec un catalyseur de changement.